Amen. Gloire au Seigneur. Bien le bonjour à chacun et à chacune. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous avez les salutations de Madame Bouchamy. Madame Bouchamy, c'est ma femme. Que le Seigneur soit béni. Vous êtes heureux? Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Il ne me sauvera pas, il m'a sauvé. Je suis sauvé. Alléluia, j'en suis convaincu. Je suis sauvé, mon nom est inscrit dans le livre de vie, pour le temps et pour l'éternité, que Dieu soit béni et loué. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de se savoir sauvé, réconcilié avec Dieu, avoir son nom inscrit dans le livre de vie, pour l'éternité, que Dieu soit béni. C'est une grâce extraordinaire que d'avoir fait l'expérience de la conversion, de la nouvelle naissance, d'être devenu enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors je vous salue tous, vous qui êtes ici, il y en a peut-être qui sont devant leurs écrans, que le Seigneur vous bénisse aussi, et que le Seigneur bénisse, il y en a peut-être en bas, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Ce qui importe, c'est que les uns et les autres, nous soyons en présence du Seigneur. Nous allons faire une lecture que l'on connaît par cœur, le psaume 133. Le psaume 133, cantique des degrés, de David. Voici, ô, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est descendue sur la tête, descend sur la barbe, d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un texte qui est connu, archi connu, que l'on a médité dans tous les sens, et il le mérite. Pourquoi ? Parce que chacun de ces mots, de ce psaume 133, mérite non seulement notre attention, mais aussi notre méditation, et je pense que chacun de ces mots serait susceptible de faire l'objet d'une méditation, d'une prédication, chacun de ces mots. Et ce matin, je m'arrêterai avec vous sur la rosée de l'Hermon. Voici qu'il est agréable d'être ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend des montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La rosée de l'Hermon, elle est comparée à la bénédiction de Dieu. La rosée de l'Hermon est une bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel, une bénédiction tellement particulière qu'elle est comparée à la vie, mais la vie éternelle. Et la vie, c'est quelque chose de tellement précieux. C'est ce dont chacun de nous retient au plus profond de son cœur, a besoin de la vie, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Sur le plan physique, il n'y a pas de problème, chacun de nous s'en occupe. Je ne sais pas combien de repas par jour vous prenez, mais vous entretenez votre vie. Et quand il y a un bobo, prenez un médicament. Si le médicament ne suffit pas, vous allez voir le toubib, je veux dire le docteur. Le médecin, il y en a parmi nous. Ah docteur, ça ne va pas, j'ai un problème ici ou là, parce que je tiens à rester vivant. On prend soin de sa vie. Mais il ne s'agit pas seulement de la vie physique, mais de la vie spirituelle. Ô combien plus importante que la vie physique, parce que la vie physique, elle dure un temps. un temps, et nous avons perdu ces quelques semaines, ben, des frères de 80, de moins de 80 ans, bien qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur et qui sont décédés, ils ont perdu la vie physique. Leur corps, leur cœur a lâché, leur corps a été bousillé, ils ont perdu la vie physique, mais ils n'ont pas perdu la vie spirituelle, ils n'ont pas perdu la vie éternelle. Ils sont au Seigneur, que Dieu soit béni. Mais la vie spirituelle est importante, car la vie spirituelle doit être conquérante. Elle doit être joyeuse. Mais cette vie spirituelle, solide, conquérante et joyeuse, comment peut-elle l'être? Comment peut-elle être cette vie spirituelle, la vie chrétienne? Comment peut-elle être conquérante, joyeuse, solide, si ce n'est par l'action puissante et permanente du Saint-Esprit dans le cœur de chacun de nous? Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas une vie psychique, ce n'est pas une vie morale, ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. Elle est l'action, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous, que Dieu soit béni. La rosée, nous dit la parole de Dieu, comparée à la vie, la rosée est un don du ciel. La raison de la rosée vient du ciel. On le voit dans Genèse 27-28, Isaac, bénissant son fils Jacob, lui dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Et puis, dans Deutéronome 33-13, Moïse, bénissant Joseph, lui dit, ton pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, le meilleur don du ciel, c'est la rosée. Ainsi, la rosée est une bénédiction de Dieu et c'est le meilleur don du ciel. Pour cultiver la terre, surtout une terre sèche, désertique, où il ne pousse rien, eh bien, quand la rosée descend, eh bien, c'est une bénédiction de Dieu. C'est une richesse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez que, dans la parole de Dieu, si vous ne le savez pas, c'est pas un problème. Il y a plus de 31 000 promesses dans la parole de Dieu. 31 000 promesses. Je ne pense pas les avoir toutes vécues. J'en ai vécu beaucoup de ces promesses de Dieu, mais je ne les connais pas, je ne les ai pas vécues, mais elles sont là. Alléluia. Elles sont là. Dieu ne nous a pas oubliés. Il nous a fait plus de 31 000 promesses. Mais la plus belle d'entre toutes, faites aux enfants de Dieu, en particulier, rien qu'aux enfants de Dieu, la plus belle des promesses, c'est le don de Dieu, c'est celle du Saint-Esprit. Cette promesse n'est pas faite à n'importe qui, et nous allons le voir. Le Saint-Esprit n'est pas donné à la légère, à n'importe qui, mais il est donné aux enfants de Dieu. Alléluia. Autrement dit, à chacun d'entre nous, à toi mon frère, à toi ma sœur, il est fait la promesse. Que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu sois conduit par le Saint-Esprit, c'est la meilleure des promesses de Dieu. Tu peux t'attendre à être guéri, tu peux t'attendre à recevoir du pain, de la viande, etc. Mais il y a plus beau que ça, il y a plus grand que ça, il y a le don du Saint-Esprit. Le Seigneur dit à ses disciples qu'il fallait qu'ils attendent ce que le Père a promis. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient là dans l'attente de je ne sais quoi. Et le Seigneur Jésus leur dit, attendez, parce que dans peu de jours, vous recevrez ce que le Père a promis. En effet, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez tous remplis du Saint-Esprit. C'est une promesse, frères et sœurs, qui est faite à chacun d'entre nous, non pas une fois dans notre vie, mais à plusieurs reprises. Nous devons être remplis du Saint-Esprit et il ne faut pas l'oublier. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, je l'ai dit et je le répète à dessein, parce que nous en avons besoin. Qui peut prétendre glorifier Dieu sans l'aide du Saint-Esprit? Qui peut prétendre louer le Seigneur sans l'aide du Saint-Esprit? Bien sûr, on peut prononcer des mots, on peut dire des choses. Mais pas selon ce que Dieu attend, pas selon ce que Dieu mérite, pas selon ce dont Dieu est digne. Hein? Un cœur rempli du Saint-Esprit, certainement, glorifiera mieux le Seigneur que celui qui le fait seulement avec la bouche et avec les lèvres. Il le fera d'une manière sincère, honnête, mais ce n'est pas ce que Dieu attend. En tout cas, ce n'est pas ce que Dieu mérite. La promesse est pour vous, dit l'Écriture, et pour tous ceux que le Seigneur appellera. À toutes les générations, la Seigneur est pour vous et pour vos enfants et tous ceux que le Seigneur appellera. La rosée donc, elle vient du ciel. Et je dirais qu'elle a une qualité particulière. La rosée, elle est vivifiante. Je le disais, je le répète, elle donne la vie. Et elle est elle-même la vie. Elle est vivifiante. Dans Proverbes 19, 12, il est écrit, « La faveur du roi est comme la rosée sur l'herbe. » La faveur du roi est comme la rosée sur l'herbe. Quand un roi veut faire une faveur, il donne quelque chose de plus. Il fait une faveur. Et ainsi, la faveur accordée par le roi est un avantage, un plus, quelque chose qui vient en plus de tout ce qu'on a reçu, de tout ce que le roi avait donné. Alors s'il fait une faveur, eh bien, il privilégie en quelque sorte la personne à qui il a fait cette faveur. La rosée a aussi pour qualité de revigorer l'herbe sur la terre sèche, que la sécheresse menace cette terre. Alors la rosée va revigorer l'herbe. Elle va avoir de la puissance, elle va avoir de la force parce que la rosée sur elle. Le Saint-Esprit, c'est dans le même sens, et il faut que ce soit. Le Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu, c'est une faveur que Dieu accorde à ses enfants. C'est une faveur, ce n'est pas un dû. Il a fait une promesse, mais cette promesse n'est pas un dû, jamais une promesse n'est un dû. On peut le regarder comme tel, peut-être, mais ce n'est pas un dû, c'est une faveur, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Le Saint-Esprit, c'est une faveur que Dieu nous accorde, et nous le donne pour que nous allions plus loin avec lui, pour que nous grandissions en lui et pour lui. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire tout seul, et le Saint-Esprit le fera en nous. Par exemple, l'apôtre Paul dira, « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit, vient notre secours par des soupirs inexprimables. » Quand nous sommes en prière, nous sommes là, il y a beaucoup de sujets qui hantent notre esprit et nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. Qu'est-ce qui est la priorité, dans nos prières? C'est ceci ou cela, c'est celui-ci ou celui-là. Et quand nous sommes en présence de Dieu, le Saint-Esprit vient en notre aide par un soupir inexprimable et le Saint-Esprit connaît et interprète ce soupir et il exauce le Saint-Esprit, bien sûr, que Dieu soit béni. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, pardon, nous rappelle que nous sommes appelés à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit, bien sûr. Parce que vivre selon la chair, c'est mourir. Mais vivre selon l'esprit, c'est vivre, bien sûr. Alors nous ne voulons pas, nous ne sommes pas de ceux qui se découragent et dire « j'arrive pas, Seigneur ». Que deux fois n'ai-je entendu les chrétiens dire « j'arrive pas hein, ». C'est plus fort que moi, j'arrive pas. Mais on ne te demande pas d'y arriver par tes propres moyens. Tu vas y arriver si tu cherches le secours de Dieu. Si tu dis au Seigneur « remplis-moi du Saint-Esprit pour atteindre les buts que tu m'assignes ». Remplis-moi du Saint-Esprit. Je peux vous donner un exemple. Je peux ?
Oui.
Donner un exemple. Il peut se faire que vous ne supportiez pas quelqu'un. Ça n'arrive pas. Mais ça peut arriver. Qu'on ne supporte pas quelqu'un, sa belle-mère par exemple. On ne supporte pas sa belle-mère. Ah, que personne ne s'en sente visé, je ne vise personne. Hein? Peut-être qu'on ne peut pas supporter. Seigneur, je ne peux pas la supporter, elle m'agace. Ou il m'agace, j'arrive pas à supporter. Ah oui. Mais la parole de Dieu me dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, qui c'est? Ben, c'est ta belle-mère. Ton prochain, c'est ta belle-mère et toi, tu dois l'aimer comme toi-même. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire, tu dois l'aimer comme toi-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je m'aime moi-même, eh bien, j'aime manger ce que j'aime manger, je mange ce que j'aime manger. Parce que je m'aime. Parce que j'aime ce qui me fait plaisir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu le traiteras comme tu te traites toi-même. Tu le mesures comme tu te mesures toi-même. Mais j'arrive pas, Seigneur. Alors jette-toi au pied du Seigneur, demande-lui pardon, demande-lui qu'il te fasse grâce et qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Il te donnera la force d'aimer ta belle-mère. Amen. Il te donnera la force d'aimer celui que tu ne supportes pas. Parce que celui que tu ne supportes pas pourrait te poser une question très simple à laquelle tu ne pourras pas répondre. Il pourra te dire « Pourquoi tu m'aimes pas ?»« Pourquoi tu m'aimes pas ?» On peut répondre à cette question ?« Pourquoi tu m'aimes pas ?» Ben, on a la bouche fermée. Parce qu'en tant que chrétien, on ne peut pas lui dire « Je t'aime pas. » Hein, en tant que chrétien, on ne peut pas. Alors on a la bouche fermée. « Pourquoi tu m'aimes pas ?» Excuse-moi, de tout mon cœur, je veux t'aimer quand même, malgré tout. Et le Seigneur me viendra en aide pour me donner de l'amour pour toi. Ah, le Saint-Esprit. La rosée a une qualité, elle sature son milieu ambiant. Elle le sature. Là où elle est, eh bien, elle remplit le lieu où elle est. Dans le livre des Juges, au chapitre 6 et verset 36, Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air, si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. La toison, c'est une nappe. Ça peut être des cheveux, ça peut être de la laine, ça peut être une nappe, quoi. La toison était donc saturée de rosée qui s'écoula sous une forte pression. Il pressa la toison et il en sortit de l'eau plein une coupe. Il pressa. Et la rosée sortit de la toison quand il y a eu une pression. Quand il n'y avait pas de pression, quand Gédéon arrivait, elle était là. Mais quand il pressa la toison, il sortit de l'eau, plein une coupe, de l'eau de rosée, bien sûr. Vous voyez où je veux en venir. Il est écrit dans la parole de Dieu, le royaume de Dieu est forcé. C'est-à-dire, c'est une porte close. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le four et le moulin, où quelqu'un peut entrer, n'importe qui peut entrer quand il veut, non. Le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. On n'entre pas dans le royaume de Dieu comme si on entrait dans un four ou dans un moulin. Le royaume de Dieu est réservé à ceux qui se font violence. Ce sont les violents qui s'en emparent, à ceux qui se font violence. Non pas à ceux qui pleurent sur leur sort. Non pas à ceux qui disent « Oh Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, je suis malheureux, Seigneur, aide-moi, je fais de la déprime. » Non ! À ceux qui se font violence, qui condamnent leur propre nature. Jésus est d'abord descendu dans les eaux du baptême. Et vous savez ce que signifie le baptême ? Quel est le symbolisme du baptême d'eau ? Quelle est la signification spirituelle du baptême d'eau ? Le baptême d'eau, c'est le symbole de la mort à soi-même. Quand on se fait baptiser, on meurt à soi-même. À partir de ce moment-là, notre vie, jusqu'ici vécue dans le péché, est engloutie dans les eaux du baptême. Et quand on sort des eaux du baptême, on est une nouvelle créature. On n'est plus ce qu'on a été. On s'est fait violence. On dit « je veux vivre autrement, je veux vivre selon la volonté de Dieu » et c'est le symbole de la mort à soi-même. C'est c'est le symbole de la mort au péché, le symbole de la mort au monde, à la chair. Le baptême d'eau, c'est ça. Il ne doit jamais naître qu'un plongeon, qu'un bain. Et s'il n'est qu'un plongeon, qu'un bain, il ne définit rien, il ne donne rien. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand on sort de l'eau du baptême, on sort en nouveauté de vie. Amen. En nouveauté de vie. C'est un païen qui entre dans l'eau, c'est un chrétien qui sort de l'eau. C'est un mort qui entre dans l'eau, c'est un être vivant qui sort de l'eau. Il change de nature. Il est différent. Alléluia. Il est différent. La mort à soi-même, la mort au péché, la mort au monde. Jésus a commencé par être baptisé et Jean-Baptiste s'y est opposé. Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Laisse faire car il est convenable que nous fassions ainsi ce qui est juste. Jean-Baptiste ne l'avait pas saisi ainsi, mais Jésus lui dit, laisse faire donc, car il est convenable que nous fassions ce qui est juste. Et qu'est-ce qu'il est arrivé après? Après que Jésus était baptisé d'eau, qu'il était plongé dans les eaux du baptême, qu'est-ce qu'il est arrivé? Le Saint-Esprit descendu sur lui sous la forme d'une colombe, et il fut rempli du Saint-Esprit. C'est l'accord de Dieu. Dieu a donné son accord à celui qui avait donné sa vie. Dieu a donné son accord à celui qui est mort au péché, au monde, à la chair. Dieu a donné son accord, son approbation, le signe de son alliance. Il l'a rempli du Saint-Esprit, que Dieu soit béni. On ne peut pas vivre à la fois dans le péché, être mondain, être orgueilleux, prétentieux, et être en même temps, prétendre être rempli du Saint-Esprit. Il y a antinomie, il y a contradiction. On ne peut pas être blanc et noir à la fois. On ne peut pas être vivant et mort à la fois. C'est l'un ou l'autre, bien sûr. Jésus a commencé par être baptisé, et ensuite le Saint-Esprit est venu sur lui, et non pas avant. Je me souviens un jour, un jeune stagiaire voulant, je ne sais pas, peut-être faire plaisir à son auditoire, a dit, moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant de me convertir. Quelle absurdité, c'est impossible. Le Seigneur ne donne pas son Saint-Esprit à un païen. Et ensuite, Jésus, nous le savons, est allé dans le désert. Le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable. Il y a quelque chose d'infini là. Il a été emmené par le diable pour être emmené dans le désert. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Mais dans le désert, le Seigneur était rempli du Saint-Esprit, et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a résisté au diable, qui lui a proposé toutes sortes de tentations auxquelles le Seigneur a refusé. Chaque fois, il disait, il est aussi écrit ceci, il est aussi écrit cela, bien sûr. Et ensuite, Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans un premier temps, il a été rempli du Saint-Esprit, et dans un deuxième temps, il a été revêtu du Saint-Esprit. Et pourquoi être revêtu du Saint-Esprit? Parce que tout de suite après, il est entré dans le ministère. Il a commencé à prêcher l'Évangile. Il a commencé à annoncer le royaume de Dieu. Parce que là, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La rosée est venue après la tentation dans le désert. On doit être rempli du Saint-Esprit pour résister au diable et servir Dieu avec efficacité. Alors, comment la rosée se forme-t-elle? Comment la rosée se forme-t-elle? Comment l'action du Saint-Esprit se forme-t-elle dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un chrétien, d'une chrétienne? Bien, la rosée se produit par la condensation de la vapeur atmosphérique de la nuit. Il y a donc trois éléments. Il y a la condensation de l'eau, la vapeur d'eau, il y a la chaleur du jour qui arrive, et puis il y a le moment propice. La rosée ne vient pas à n'importe quelle heure, il y a un moment bien précis. Un moment précis. Donc il y a l'eau, la condensation, la vapeur d'eau, la chaleur du jour qui pointe, et puis le moment précis. Dans Psaume 22, 15, le psalmiste s'écrit et dit, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Mes forces m'abandonnent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. » Et quelquefois, mes frères et sœurs, je crois que Dieu attend que nous soyons un petit peu comme de l'eau qui s'écoule. Que veux-je dire par là? Je veux tout simplement dire que certains, dans la présence de Dieu, résistent à l'action de Dieu. Dieu parle leur cœur, mais ils résistent leur coup. Ils se ferment à l'action de Dieu. Et il s'étonne après qu'il ne se passe rien. Oui, mais Dieu a frappé à la porte de ton cœur et tu as dit non. Tu n'as pas été comme cette eau qui s'écoule. Tu as résisté. Dans Lamentations 2,19, il est écrit « Répands ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. » Répands ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Répands ton âme, répands ton cœur. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur et dans ta vie, bien sûr. Et puis concernant la chaleur, dans Luc 24,32, les disciples rendent témoignage. Ils racontent ce qui leur est passé quand ils rencontrèrent Jésus. Et ils racontèrent en disant, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait, expliquant les Écritures. Leur cœur se réchauffait quand ils entendaient Jésus leur parler, leur expliquer les Écritures. Il y a donc cette attitude, le comportement de notre cœur devant Dieu, et puis il y a la parole de Dieu. Et puis il y a le moment propice. Le moment propice est lequel? J'y ai fait allusion tout à l'heure. Le moment propice, ça peut être le soir de notre combat. Nous sommes en train de prier et de combattre avec Dieu. C'est peut-être le moment que Dieu choisira pour parler à notre cœur et pour nous visiter par le Saint-Esprit. C'est peut-être le moment où nous cessons de nous illusionner, de nous raconter des histoires. C'est le moment, peut-être, que Dieu a choisi, celui de la foi simple, celui où nous croyons, cette foi simple, naturelle, pure et vraie. En fin de compte, que nous demande le Seigneur? Quelqu'un l'a dit dans la prière tout à l'heure, avoir soif. Et Jésus le dit dans Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive des fleuves d'eau vive que l'on de son sein. Tu as remarqué ce qu'il a dit? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Autrement dit, son sein deviendra une source de vie. S'il vient au Seigneur, s'il s'abandonne au Seigneur, s'il a vraiment soif, alors Dieu va non seulement l'abreuver, mais faire de lui une source de vie. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et puis aussi avoir un cœur obéissant pour recevoir la parole de Dieu. Dans l'Écriture, il est écrit, et le Seigneur, il voit un peu dardard, hein. Il appelle les choses par leur nom. Et je ne sais pas si ça nous fait toujours plaisir, quand il dit, si méchant comme vous l'êtes, oh là là, on est méchant, Seigneur? Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ah oui. Il y a une espèce de contradiction dans ces choses-là. On est méchant, mais on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Il y a un peu de la méchanceté et de la gentillesse. Parce que nous faisons un choix, parce que nous aimons les enfants et nous aimons leur donner ce qui est bon, ce qui est favorable, ce qui leur est favorable. Et pourtant, nous sommes méchants. Pas vous, hein, je parle pour moi. Nous sommes méchants. Si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Parce que dans votre cœur, vous faites un choix, vous faites des priorités, c'est sûr, et c'est normal. Il n'y a pas seulement que les hommes font ça, mais les animaux font ça. Les animaux se battent pour protéger leurs enfants, leurs petits et leur donner à manger, parce qu'ils les aiment. Et pourtant, ce sont des bêtes sauvages qui s'entretuent. Mais si méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Nous sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants parce que nous les aimons. Mais Dieu, qui est infiniment meilleur que nous, il est le Dieu tout bon. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce que vous demandez au Seigneur le Saint-Esprit? Est-ce que vous demandez au Seigneur tous les jours de vous remplir du Saint-Esprit? L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Si chaque jour, au lieu de vider une bouteille, vous allez vous remplir du Saint-Esprit, ce serait différent. Et comment conclurai-je ma méditation ce matin? Quelle est la conclusion? Car pour compléter cette méditation, j'ajoute, il faut en tirer une conclusion et une dernière leçon. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là. Là où il y a la rosée, il y a la bénédiction. Même si la rosée est en elle-même une bénédiction, elle produit une autre bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Elle, c'est une bénédiction. Elle rafraîchit la terre, elle rafraîchit l'herbe, bien sûr. Mais elle a permis au paysan qui est là d'ensemencer. Et cette semence va produire quelque chose. Il va récolter quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Dans un premier temps, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont vu la rosée leur descendre dessus. C'est une bénédiction. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'ont pas apprises, bien sûr. Et c'est une grande bénédiction. Mais les gens de Jérusalem, les entendant parler en langue, chanter en langue, se sont posé des questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire tout ce bruit? Ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres. C'est pas naturel, c'est pas normal. Qu'est-ce qui arrive? Pierre leur dit, attendez, ces gens que vous entendez ne sont pas ivres. C'est qu'au contraire, l'accomplissement de la promesse de Dieu par Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, vous recevrez le Saint-Esprit, vous parlerez en langue, vous prophétiserez, vous aurez des songes, etc., etc. Et l'apôtre Pierre, après cela, il leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Et il y a eu 3000 conversions. Il y a la bénédiction du baptême du Saint-Esprit et la récolte de la semence. Les conversions par milliers, une fois 3000 et une fois 4000, parce qu'il y avait la rosée, parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole et qu'elle bénisse chacun d'entre nous et que nous soyons de ceux et de celles qui ont soif, 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 et qui ne disent pas, moi j'en ai assez. Jusqu'à présent, j'ai vécu la Pentecôte, je sais ce que c'est. C'est vrai, mon frère, ma sœur? C'est vrai ou c'est un leurre? Ou c'est seulement de l'histoire? Ah, mais j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a 20 ans. Et alors? Et aujourd'hui, tu en es où? Tu es sec? Non. Reviens au Seigneur. Et demande-lui de te renouveler dans le Saint-Esprit. Comme la première fois. Parce que moi je change, toi tu changes. Nous changeons. Nous fatiguons. Parce que les aléas de la vie, les aléas de la nature humaine, les aléas de notre comportement, eh bien nous fatiguent. Et à un moment donné, on jette l'éponge. On dit, moi j'en ai assez, moi je ne veux pas aller plus loin. Non, mille fois non. Nous changeons, mais lui, il ne change pas. Nous fatiguons, mais lui, il ne se fatigue pas. Il est toujours là. Et il désire nous renouveler comme au premier jour. Que Dieu bénisse sa parole et qu'elle bénisse chacun d'entre nous au nom de Jésus. Te rendons grâce et te bénissons, Seigneur, de tout notre cœur. Merci de nous avoir attirés à toi. Merci d'avoir fait descendre la rosée du ciel, qui est une faveur, la faveur du roi. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de te servir. Seigneur, nous te prions de nous renouveler afin que nous te servions mieux, plus efficacement. Père, au nom de Jésus, nous avons tellement besoin de toi. Mais tu es là. Tu as dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu n'as jamais manqué à tes promesses. Et nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.